Dieu vous bénisse. Je vous souhaite le bonsoir dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous venons maintenant devant ta face te dire merci pour le grand privilège que tu nous as donné de pouvoir nous réunir. Nous étant réunis dans ta présence, nous nous attendons selon ta promesse aux riches bénédictions que tu as promises, ô Dieu, où tu as dit que tu répandais la bénédiction en abondance. Nous t'en remercions. Inspire-nous ta parole ce soir encore et aide-nous, ô Dieu, réconforte-nous encore, fortifie-nous, ô Dieu, dans ce chemin qui est parfois difficile, mais c'est dans les difficultés que l'on voit plus ta main. Lorsque tout semble facile, on a tendance à penser que cela vient de nous-mêmes. Mais c'est quand nous nous retrouvons devant une mer rouge, à côté des montagnes, avec Pharaon dehors, derrière cela que nous réalisons combien tu es tout-puissant. Maintenant, ô Dieu, pardonne nos péchés, ils sont nombreux, et sois avec nous ce soir. Ouvre toute ta parole dans le puissant nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Oui. Ce soir, nous lirons, j'ai demandé à ce que nous puissions chanter quand le vol la tempête. Je l'ai demandé parce que nous ne devons pas oublier, dans notre marche, la tempête soufflera toujours. Ce n'est pas du tout une question de se décourager ou parce que c'est normal et nous allons voir que Jésus l'a dit. Jésus l'a prédit et vous allez voir qui subit cette tempête. Et le frère qui a été inspiré pour composer ce cantique-là, il est passé par des tempêtes certainement, au moins une, mais il reconnaît aussi qu'il y a des bienfaits. Il y a eu beaucoup de bienfaits de Dieu. Il dit quand j'en compte le nombre des bienfaits, je vois qu'il est bien plus grand. Mais les tempêtes, elles sont là. Lorsque Dieu demande à Israël de se souvenir du chemin, lorsqu'on nous demande de se souvenir le chemin parcouru jusqu'ici, on a tendance plus à nous souvenir des moments difficiles. Les moments merveilleux que nous avons passés, on en parle difficilement, rarement. Mais c'est plus les moments difficiles dont on se souvient. Mais c'est justement dans ces moments-là que Dieu est plus près. Alors, aujourd'hui, nous allons... elle n'est pas là. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une de mes enfants. Tu lui diras, je lui souhaite bon anniversaire. Ça va? Au nom de Jésus-Christ. Nous lirons dans Matthieu 7. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
Amen.
La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ce qui signifie que lorsque nous traversons une tempête, ou après avoir traversé une tempête, si nous constatons que la maison est toujours debout, glorifions Dieu.
Amen.
Nous intitulons le sujet ce soir La tempête annoncée. Je voulais mettre la tempête qui approche, mais ce n'est pas tout à fait ce que le frère a prêché. C'est pourquoi je mets une tempête annoncée. C'est la tempête annoncée. L'annonce de cette tempête, en fait, cette tempête en elle-même, elle constitue un test. Comme on dit que l'épreuve de la foi, c'est un test ADN pour voir si on est réellement fils ou fille d'Abraham, n'est-ce pas? Eh bien, la tempête, c'est un test qui consiste à dévoiler la nature du fondement sur lequel vous êtes. Sur quel genre de fondement êtes-vous? Êtes-vous sur le roc ou êtes-vous sur le sable? Parce que quand vous regardez bien ces deux maisons, nous voyons que ce sont deux maisons ou assemblées qui reçoivent exactement les paroles de Christ. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis. Ça va? Pas que quelqu'un d'autre a dit, mais que lui a dit ces paroles que je dis. La différence va se trouver dans la mise en pratique ou pas. Il ne s'agit pas ici des insensés. L'insensé, c'est qui? Psaume 14. Au chef des chantres de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est une parole de non-sens. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Dans le psaume 73, là, il ne s'agit pas, dans le psaume 50, pardon, là, il ne s'agit pas de l'insensé, il s'agit du méchant. Verset 16, Dieu dit aux méchants, quoi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche, toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Le méchant, il n'entend même pas les paroles, il ne prend pas la peine de les écouter, il les connaît, il les a dans la bouche, mais il les jette derrière lui. N'est-ce pas? Dans le psaume 73, psaume d'Asaph, oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, alors qu'il fait partie d'Israël, toutefois mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi? Car je portais en envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort et leur corps est chargé d'embonpoint. On dirait que sur leur maison à eux, les tempêtes ne soufflent pas. qu'il n'y a pas ce genre de choses, de ces vents qui tombent et qui viennent provoquer, n'est-ce pas, soit la ruine, soit montrer la stabilité. Donc, que ce soit ce que nous venons de lire dans Matthieu 7, que cela soit dans une maison ou dans une assemblée, ce sont bien les paroles de vérité, les paroles de vie qui y sont apportées. Maintenant, lorsqu'elles sont apportées, qu'est-ce que vous en faites? Quiconque entend, et nous savons que quand on entend la parole de Christ, qu'est-ce qui se passe? La foi vient. D'accord? Hein? Romains 10. Donc, quiconque entend, Romains 10, verset 14, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle, obéir à la parole, à l'évangile. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? L'obéissance, on l'a déjà dit. Hein, Abraham, lors de sa vocation, Abraham, par la foi, il obéit et partit. La foi et l'obéissance vont ensemble. Hein? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et je dis parole tempête annoncée, parce qu'elle est annoncée par le Seigneur lui-même. Et nous sommes disposés, on l'a d'ailleurs souvent chanté, hein, au pied de sa croix, je voudrais être, n'est-ce pas, pour pouvoir l'écouter. Nous prêcher la parole. Et tôt ou tard, cette tempête viendra. Et elle est déjà venue. Et nous voyons dans la vie de beaucoup de bien-aimés, ces choses, les tempêtes arrivent. Alors qu'ils écoutent la parole de Dieu, alors qu'ils écoutent la parole de Christ, et la prière, la consécration, n'annule pas le fait que la tempête va arriver. S'il y a lieu de prier, il faut prier le fait que si elle arrive, que Dieu me fasse grâce de pouvoir traverser victorieusement cette tempête. Et la tempête, ce n'est pas une mince affaire. Ce n'est pas une petite histoire. Job était un homme pieux. Si la prière arrêtait ces choses-là, Job n'aurait pas été dans des problèmes. Job, non seulement il était pieux, mais il était intègre et droit, ce qu'on appelle aujourd'hui un juste. Job, chapitre 1er. Et c'est Dieu lui-même qui rend témoignage de Job. Il y avait dans le pays d'Outz, j'ai toujours eu envie de prêcher un peu sur ce pays d'Outz pour que nous puissions voir qu'il était dans une condition difficile. Mais malgré les difficultés des conditions dans lesquelles il était, il restait intègre et droit. Dans un pays ou dans une ville où le péché abonde, où le péché surabonde, mais Dieu a quand même un témoin. Il a son témoin qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors que le mal n'est-ce pas, était quasiment à chaque coin de rue. Dans le cantique que le frère vient de nous faire chanter, il y a cette prière que le frère compositeur me met dans le cantique. Il dit que ce monde et ses attraits ne m'attirent jamais, qu'ils ne me séduisent jamais. Et Job était dans ces conditions-là. Mais malgré tout, il restait toujours intègre et droit. Il a eu des enfants. Et combien c'est difficile d'élever des enfants aujourd'hui, dans les conditions d'aujourd'hui, dans l'éducation qu'on leur apporte aujourd'hui, par les réseaux sociaux, dans les écoles, dans le voisinage, dans les quartiers, partout où ils passent. C'est quasi contraire à chaque fois à ce que nous leur enseignons ici. Mais il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis. Il avait beaucoup de biens. Il avait 3 000 chameaux. Mais ces biens-là ne lui sont pas montés par la tête. Le fait d'avoir beaucoup de biens, il était resté intègre et droit. Or, je crois que c'est David qui dit: ne me donne pas beaucoup de peur que je ne t'oublie. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont beaucoup, ils finissent par oublier Dieu. Mais Job n'oublie pas Dieu. Il est béni, il a des enfants, il a des troupeaux, 500 paires de bœufs. Donc, un taureau et une vache. Un taureau et une vache. 500 comme ça. Ça fait 1000. 1000 bêtes. 500 ânesses. Et un très grand nombre de serviteurs. Dites amen à ça. Et les serviteurs, c'est important. Vous savez qu'ils peuvent être un élément de paix dans une maison, lorsqu'il y a des serviteurs. Parce que si vous êtes rien que vous deux, ou bien vous êtes à deux, et que c'est toujours un qui fait toujours les mêmes tâches, tout en travaillant comme l'autre, ça va finir par fâcher l'autre. On va dire: comment, c'est toujours moi qui fais ça. Est-ce que toi, tu ne peux pas le faire? C'est pourquoi avoir un serviteur, c'est très bien. Vous allez tous les deux travailler. Lorsque vous rentrez, vous trouvez la maison en ordre. Amen. Ouais, si vous avez un cuisinier, le cuisinier vous a fait à manger. Et l'entente est dans la maison. Ça fait un sujet de dispute en moins. Dites amen à ça. C'est ainsi que dans les maisons ici en Europe, il y a souvent des problèmes. Parce que engager un serviteur, c'est excessivement cher. Tandis que chez nous en Afrique, hein, vous avez un petit peu, vous avez quand même quelqu'un pour vous aider dans le travail. Il fait tout. Ça va? Et vous le payez pour ça. Et Job avait beaucoup, un grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Est-ce que ça lui monte à la tête? Non.
Non.
Ses fils allaient les uns chez les autres. Ils avaient tellement de biens et donnaient tour à tour un festin. Boum sur boum. Fête sur fête. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours de festin, et le festin, c'était plusieurs jours, hein. C'était plusieurs jours d'affilée, hein, le festin. Pas seulement petite boum entre. Ils n'avaient pas besoin de travailler, papa avait beaucoup d'argent. Papa en avait pour eux tous suffisamment. Et quand les jours de festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Pour chacun. Car Job disait: peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Ben, malgré cela, malgré les holocaustes, malgré certainement les prières qu'il faisait, qu'il adressait à Dieu, eh bien, ça n'a pas empêché la tempête de s'inviter chez lui. Et la Bible appelle cela une tempête. Dans Job 38, Job, après avoir posé beaucoup de questions, c'est 38, l'Éternel répond. Il répondit à Job. Où ça? Pas à la fin de la tempête? Non. Pas longtemps après la tempête? Non. Il répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence. Dans chaque chose qui arrive, c'est, en tout cas pour ceux qui aiment Dieu, ça fait partie des desseins divins. Et je crois que c'est dans Ésaïe 25 où le prophète dit que l'Éternel est un abri pour lui dans la tempête.
Amen.
C'est un abri dans la tempête. Et donc Job, la tempête, nous savons ce qui s'est passé. Nous savons ce qu'il a vécu, ce qu'il a subi. Job, du milieu de la tempête, Dieu lui a parlé. Dieu a permis que la tempête souffle quand même dans sa maison. Et ça n'a pas été une partie de plaisir. Job en a tellement souffert. Il en a tellement souffert qu'il s'écrit comme ça. C'est seulement aujourd'hui j'ai vu cette phrase-là de Job. Il était arrivé à ce point-là dans Job 6. J'ai dit, mon Dieu. Job prit la parole et dit, écoutez ceci, oh, s'il était possible de peser ma douleur. Ouais. Et si toutes mes calamités étaient sur la balance. Vous savez ce qu'il en dit? Elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. C'est dire que cet homme a souffert. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Il savait qu'il en était devenu presque fou. Fou de douleur. Car les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Et mon âme en suce le venin. La terreur de Dieu se range en bataille contre moi. Alors, qu'est-ce qu'on en pense à ce moment-là? Lorsque ça arrive dans l'assemblée, était-ce une défaite? Normalement, si vous êtes en Christ, le mot défaite n'existe pas. C'est moi qui le dis. Si vous êtes en Christ, 2 Corinthiens 2. Qu'importe ce qui vous arrive, hein, si vous êtes en Christ, le mot défaite n'existe pas. Nous ne terminerons pas ce sujet aujourd'hui. On va en voir juste une introduction. Nous terminerons, Dieu voulant, peut-être la fois prochaine, si les choses ne changent pas. 2 Corinthiens 2. Verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours.
Amen.
Dites amen à ça.
Amen.
Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Aussi douloureux que ça peut être, aussi difficile que ça peut être, nous restons quand même vainqueurs. Nous pouvons sembler être défaits, mais nous sommes vainqueurs. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses, car nous ne falsifions point la parole de Dieu.
Amen.
Jamais. La parole de Dieu reste toujours valable. Ce qui est écrit, c'est la vérité. Amen.
Amen.
Nous ne la changeons pas du tout, même si ça va à l'encontre de nous-mêmes, même si ça révèle nos faiblesses, je n'ai pas à la changer. Vous savez, quand Dieu vous inspire une prédication, il peut arriver que il touche un point où c'est votre faiblesse à vous, prédicateur, qui en ressort. Eh bien, il ne faut pas sauter.
Non.
Il faut la lire.
Amen.
Amen. Il faut la lire. Et gloire à Dieu. Et reconnaître devant Dieu, c'est vrai Seigneur, c'est ma faiblesse. Si c'est quelque chose que je fais en cachette, je le fais peut-être en cachette pour vous, mais pas pour Dieu. Et maintenant, quand je lis ça, je dois le lire. Quand Dieu m'inspire que je dois le lire, je dois le lire. Amen. Et si je dois cogner dessus, je cognerai dessus. Oui. Mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Oui. Bon, pour Job, c'était pas une défaite. Comment dirais-je, les frères qui sont venus le consoler semblaient le condamner. Frère Job, peut-être parce que tu ne pries pas assez. Job priait beaucoup. Il priait d'ailleurs tellement bien qu'à la fin, Dieu a demandé à Job de prier pour cela. Parce qu'il priait très bien. Et Dieu entendait ses prières. Peut-être que ses frères ont pensé qu'il avait, c'était un pécheur comme tout le monde, mais il offrait ses sacrifices. Et dans Job, chapitre 1er, verset 22, ça c'est une victoire. Hein. Donc le dernier verset du chapitre 1er. Donc, en tout cela, après avoir dit l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni, alors, en tout cela, en tout ce qui lui est arrivé,
oui.
En tout cela, amen. Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu.
Amen.
Vous savez, il a, entre guillemets, il a tellement attiré l'attention de Dieu. Bon, je ne vais pas dire entre guillemets, mais Dieu l'a tellement aimé que vous savez qu'il y a trois hommes. Il y a trois hommes en particulièrement par rapport à leur justice dont Dieu parle. En citant leur nom, trois hommes. Non pas que les autres ne sont pas justes, hein, mais il y en a trois dont Dieu parle et dans des conditions assez difficiles. Hein. Allons un peu dans Ézéchiel 14. Ah là là. Verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. C'est ainsi dit le Seigneur.
Amen.
Fils de l'homme, si un pays, donc la Belgique, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, Et si j'étendais ma main sur lui, sur ce pays, si je brisais pour lui, pour le pays, le bâton du pain, donc il n'a plus de pain, si je lui envoyais la famine en Belgique, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, plus de viande, plus de légumes, et qu'il y ait au milieu de lui, de ce pays, ces trois hommes, Noé, Daniel et Job. Eh bien, si j'ai cette eh bien, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni fille, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Non, Dieu prend compte. Dieu tient compte du fait de leur justice. Et il va répéter au verset 19, « Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, je suis vivant, dit le Seigneur, il ne sauverait ni fils ni fille, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. » C'est pourquoi j'ai souvent eu envie de prêcher sur ce pays d'Outz, que je voyais un peu ce qui s'y passait et comment est-ce que Job a pu tenir le coup dans ce pays-là. Quant à Noé, Noé, vous connaissez tous le temps de Noé. Le temps de Noé, c'est un temps un peu comme celui-ci que nous avons là aujourd'hui. Tiens, tout à l'heure en venant, j'ai vu un très bel arc-en-ciel. C'est le plus beau que j'ai jamais vu aujourd'hui. Et je pensais à Noé. Dans Genèse chapitre 6, l'Éternel vit, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre.
Amen.
Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, dans cette atmosphère-là, il y en a un qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Si ici en Belgique, au milieu, si on prend l'Assemblée dans son ensemble, au milieu de toutes les assemblées qui écoutent les paroles de Christ, si Dieu peut dire aujourd'hui, il va exterminer toutes ces assemblées-là, mais il fera, mais que à la rue de Firland, la rue de Firland a trouvé grâce à ses yeux, nous serions les hommes et les femmes les plus heureux de la terre. Ouais. Daniel, esclave en plein Babylone, où l'ordre vient au son de la guitare, au son de la trompette. Enfin, je ne connais pas tous les instruments. Je peux prendre Daniel. La guitare, enfin, les instruments, ça, c'était plus les compagnons de Daniel. On va prendre Daniel. Ceux-là, ils n'ont pas été cités dans Ézéchiel 14. Nous allons voir avec Daniel, n'est-ce pas?
Oui.
Daniel, alors que toute la ville vivait bizarrement, le roi d'abord, il va se mettre à faire des fêtes à tout va, malgré que Daniel était nommé, il occupait un poste important, à aucun moment Daniel ne s'est mêlé à eux. Il n'était jamais avec eux. Tel point que Daniel, n'est-ce pas, nous connaissons la chose, c'est dans Daniel 6, il va être jeté dans une fosse aux lions. Ça, c'est sous les Perses, sous les Iraniens. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes, ce sont des gouverneurs, qui devaient être dans tout le royaume. Alors, maintenant, alors, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion dans ce pays où la tentation est si forte. Mais on n'arrive pas à trouver une seule occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais.
Amen.
Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi, « Roi Darius vit éternellement. » Les flatteurs, il y en a toujours eu. Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers, les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, pourtant que quiconque dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, au roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, le roi confirme la défense et écrit le décret afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. Et Darius, bêtement, il prend la lettre, hop, il signe. Et il aimait beaucoup Daniel. Alors finalement, on va lui dire que Daniel n'obéit pas à ça. Et ça va l'attrister. Finalement, on va l'accuser et Daniel sera jeté dans une fosse aux lions. Des idolâtres. Il était en plein milieu des idolâtres. Mais il est resté fidèle à son Dieu. Job, c'était dans la souffrance. Maintenant, cette tempête annoncée, elle ne s'abat que sur ceux, celle que le Seigneur annonce dans Matthieu 7, elle ne s'abat que sur ceux qui reçoivent la véritable parole de Christ. Pas sur l'insensé, nous l'avons dit. La différence vient de la mise en pratique ou non de ce qu'on entend. Est-ce que je la mets en pratique? Est-ce que je ne la mets pas en pratique? Si, en tant qu'assemblée ou en tant que maison, nous traversons une tempête et que la maison n'est pas partie sens dessus dessous ou l'assemblée, c'est que la maison, elle est bien bâtie. C'est que l'assemblée, elle est bien bâtie. Satan viendra avec plein de choses pour vous faire douter. C'est parce qu'il y a telle chose dans l'assemblée, c'est parce qu'il y a tel machin dans l'assemblée. S'il y a quelque chose, Dieu est suffisamment grand que pour faire ressortir cela. La mise en pratique des paroles de Christ entraîne, bien sûr, à la formation d'un roc comme fondation. Et nous savons ce que c'est que le roc. Le roc, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Ça va? Quiconque entend et bâtit sur le roc, c'est là où Abraham dit, hein, puisque le roc est une révélation, c'est là où le frère Abraham dit, la foi, c'est une révélation. C'est une révélation. Révélation de qui est Jésus-Christ. Matthieu 16. Quand vous savez qui est Jésus-Christ, oui, qu'importe ce qui peut vous arriver, qu'importe la chose qui peut arriver dans votre vie, et que vous le connaissez dans la pleine révélation qu'il donne de lui, vous ne serez pas malheureux. Votre foi ne fera pas naufrage. Si l'Église est fondée, si l'Assemblée ici est fondée sur le roc, la révélation de qui est Jésus-Christ, pas ce que frère François vous dit de qui il est, c'est que Dieu lui-même vous dit qui il est. Parce que frère François vous dira juste Jésus-Christ est Dieu, ça veut dire quoi? Maintenant, je peux aussi vous dire que l'Éternel est Dieu. On ne réalise pas ce que ça veut dire. Les enfants d'Israël, lorsque l'Éternel envoie Moïse auprès des enfants d'Israël leur dire, dis-leur le Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui t'envoie. Et c'est lui qui va les faire sortir. Ils devaient savoir que ce Dieu-là était tout-puissant. Que ce Dieu-là, n'est-ce pas, quand il dit le Dieu d'Abraham, c'est-à-dire c'est le Dieu qui a rendu Sarah féconde, apte à enfanter, alors que son corps était complètement usé. Amen. Que Abraham lui-même aussi, le corps était complètement usé. Et c'est ce Dieu-là qui dit qu'il va les faire sortir de l'Égypte. C'est le même Dieu qui a appesanti sa main sur Pharaon, à tel point que Pharaon a tremblé de peur. Il les a chassés pour qu'ils sortent vite, tellement le malheur s'abattait sur lui. Le malheur s'est abattu dans sa maison. Il a perdu son premier-né. Il a voulu aller avec Dieu jusqu'au bout. Ça lui a coûté cher. Et les enfants d'Israël ont vu ça. Mais quand ils arrivent devant la mer Rouge, Dieu est là, dans la colonne de feu, de nuée. Dieu étant là, qu'est-ce que Israël fait? Israël regarde en arrière, voit Pharaon. Israël panique. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore la révélation que Dieu pouvait arrêter Pharaon qui était derrière eux, qui les poursuivait. Il ne savait pas que Dieu était capable d'arrêter Pharaon. Il y a beaucoup de croyants aujourd'hui qui ne savent pas ce dont Jésus-Christ est capable. Il faut que nous soyons, que nous puissions réaliser cela. Que rien ne nous est arrivé sans que Dieu ne le permette. S'il a permis, il sait pourquoi. Oui. Et Dieu va ouvrir la mer Rouge. Quel est ce Dieu qui a déjà ouvert une mer? Il n'y en a pas. Mettez-vous un peu au bord de la mer et regardez, hein, cette mer-là s'ouvrir devant vous. Et puis vous traversez. Vous traversez la Manche, par exemple, hein, d'Ostende jusqu'en Angleterre. Quel est ce Dieu-là qui peut faire si ce n'est le Dieu d'Israël, l'Éternel? C'est le seul qui pouvait faire cette chose-là. Il les a écartés. Il a écarté l'eau, pardon. Alors maintenant, quand vous avez ce Dieu-là, de quoi aurez-vous encore peur? Mais ils avaient quand même peur. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils avaient quand même peur. Ils ont eu peur de mourir de soif. Ils ont eu peur de mourir de faim. Quand ils sont arrivés à Kadesh Barnea, ils ont eu peur des géants qui étaient là. Ils avaient une facette, mais les autres facettes, ils n'avaient pas. Dieu dit à Abraham, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? L'ange dit à Marie, il n'y a rien d'impossible à Dieu. Ça, c'est la révélation que nous devons avoir ce soir. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Et c'est sur cela que nous irons la semaine prochaine. Enfin, ou la fois prochaine. Mais il faut que nous ayons cette vision-là du Dieu vivant.
Amen.
Le roc, c'est la révélation de qui est Jésus-Christ. Matthieu 16. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée, verset 13. Césarée de Philippe demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. » Ça n'a pas empêché Pierre de renier le Seigneur. Oui, c'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez la révélation d'une facette que vous pouvez courir, partir. Non, laissez Dieu vous révéler réellement qui il est. Et c'est dans ce but-là que lorsque la tempête souffle, c'est là où vous apprenez de voir qui il est réellement. Il y a besoin de cette tempête-là. Maintenant, ce qui va faire le contrepoids à nos souffrances, à nos douleurs, c'est la foi. La foi que nous avons reçue en entendant la parole de Christ. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. » Et que sur ce roc, je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Le séjour des morts peut venir s'abattre sur cette maison. Eh bien, sur cette église, l'église ne bougera pas d'un iota. La maison qui tombe en ruine, c'est la maison qui a reçu la parole de Dieu, mais qui n'en a pas eu la révélation. Il a répété cela comme un perroquet, et il va vous dire, « Oh, c'est pareil, nous tous, nous adorons le même Dieu. » Non, nous ne marchons pas par ce que dit le pasteur, nous marchons par la révélation. Maintenant, la question est posée, qui est Jésus-Christ? Nous terminerons par là. Proverbe 30, qui est-il? La question est posée. Elle est bibliquement posée. Proverbe 30. Verset 4. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? À nous de répondre. Et on va répondre comment? Mais François va nous le dire. Il y a un Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom?
Amen.
Et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? C'est la question. Si nous ne sommes pas en ruine ce soir, la ruine, c'est ça la défaite. Si nous ne sommes pas en ruine, c'est que, quelque part, Dieu nous a fait la grâce de réaliser qui est Jésus-Christ. Peut-être pas tout, mais il y a certaines choses que nous savons. Que c'est bien lui. Vous savez, quand on l'a appelé, lorsque Lazare est mort, Marthe et Marie, lorsqu'elles ont appris qu'il était là, elles ont arrêté de pleurer. Et là où Frère Branham dit, quand il vient, il renouvelle l'espoir, l'espérance. Donc, si après cette tempête, si la fondation demeure, c'est que vous êtes dans le bon. Vous avez la révélation. En tout cas, Dieu vous révèle qui il est. Marthe et Marie, lorsqu'elles l'ont vu, je crois que c'est Marthe qui lui dit, c'est, quand je sais qui tu es, je sais que mon frère ressuscitera. Rien que ça pouvait la consoler. C'est là où Christ est le grand consolateur aujourd'hui, la forme du Saint-Esprit. Tout ce qui peut nous arriver, nous ne craignons rien. Jésus a dit dans Jean 16, 33, ne craignez rien, j'ai vaincu le monde. Parce que je sais qu'il a vaincu le monde, parce qu'il vit aujourd'hui, il est ressuscité. Je chante, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés.
Totalement. Amen, amen.
Prions le Seigneur. Prions. Personne ne connaît le Père si le Fils ne le révèle. Personne ne connaît le Fils si le Père ne le lui révèle. C'est Jésus qui l'a dit. Nous devons savoir que celui qui nous appelle, c'est celui qui a fait les cieux et la terre. Et nous savons que toute la création obéit à sa voix. Il en est le maître suprême. Le soleil lui obéit. S'il dit au soleil recule, le soleil reculera. S'il lui dit d'avancer, il avancera. S'il lui dit de se cacher, il se cachera. Il est Dieu. Il parle au vent et à la tempête. Il parle même du milieu de la tempête. Il n'est jamais loin. Et nous lui sommes reconnaissants ce soir pour tous les bienfaits dont il nous a comblés. Aussi, lorsque les douleurs viennent, lorsque les calamités tombent, suivons le conseil de ce bien-aimé qui a été inspiré par le Saint-Esprit, comptons les bienfaits. et des bienfaits. Dieu en avait fait à Job. Avant que toutes ces choses ne lui arrivent, il lui a même restitué ses biens par après. Nous aussi, nous avons nos témoignages des grandes choses que Dieu a faites en notre faveur. Si nous le remercions pour toutes choses, et nous savons qu'il est plus que capable de guérir ceux qui sont malades, de sortir de l'hôpital ceux qui sont hospitalisés, de délivrer ceux qui sont enchaînés. Car l'Esprit de l'Éternel a la loi afin de nous annoncer cette bonne nouvelle, qu'il est au-dessus de toutes choses. Puisse-t-il se révéler à chacun d'entre nous. Et que lorsque nous aurons à lui adresser la prière, que cela soit de prière de la foi, qui pourront monter vers lui comme des parfums de bonne odeur. Ô Dieu, te remercions ce soir pour nous avoir réunis. Te remercions pour la grande victoire acquise à Golgotha, où les autorités, les dominations, les principautés ont été exposées à l'ignominie. Tu les as vaincus à la croix. Pour la défier même, le dernier ennemi qui nous reste. Il y est allé tout droit vers l'échafaud. Il y a laissé sa tête, sachant que tu la lui remettrais lorsque tu reviendras. Les Thessaloniciens sont passés par des sérieuses tempêtes. Tu les bénisses. Que tu bénisses leurs âmes. Tous les Thessaloniciens d'aujourd'hui qui ont cette foi renommée dans le monde entier. Que tu les bénisses. Pendant que tu leur fais don de cette foi, ne nous oublie pas. Fais-nous un don également à la rue de Firle. Nous comptons les bienfaits que nous avons enregistrés dans cet endroit. Et c'est vrai, comme dit le cantique, ils sont nombreux. Aussi, nous te remercions pour toutes choses. Bénis tes enfants ce soir. Accompagne chacun d'entre nous dans sa maison. Donne-nous le temps de méditer nuit et jour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, t'avons ainsi prié. Amen. Dieu vous bénisse. J'ai reçu un message du frère Corneille. Et frère Cornet a signalé qu'il allait être de retour aujourd'hui à Bruxelles. Celui qui veut peut passer chez lui pour le deuil de sa sœur. Amen. Que Dieu vous bénisse.